Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi. Je suis ravie de vous accompagner jusqu'à 16h avec le docteur Jimmy Mohamed, toujours fidèle au poste.
Oui, bonjour, bonjour Jimmy. Anne, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, d'abord un grand dossier du jour dans lequel on va parler de nos ongles. Pourquoi poussent-ils plus vite sur les mains que sur les pieds? Peuvent-ils changer d'aspect? Et pourquoi dit-on que ce sont des petits centimètres carrés qui sont le reflet de notre santé? On en parle avec le docteur Sophie Goetmann, dermatologue et chirurgienne à Paris. Ensuite, dans notre chronique « Les mots du quotidien », nous parlerons de l'anémie. Pourquoi crée-t-elle de la fatigue? Est-ce lié à l'alimentation? Jimmy Mohamed va nous éclairer. Enfin, côté sexo, vers 15h50, il sera question de l'androgynie. Quand notre apparence physique ne permet pas vraiment de savoir à quel sexe on appartient, est-ce plus compliqué sur le plan affectif? Nous en parlerons avec Catherine Blanc.
Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Et pour ouvrir cette émission, voici le vrai faux et les réponses aux questions que vous nous posez au 3921, le répondeur d'Europe 1. La première question, c'est celle de Laurent.
Voilà, j'ai entendu parler du syndrome de glissement chez la mère d'une amie, mais j'avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est, donc est-ce que vous pourriez me répondre? Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Jimmy, quand on parle de syndrome de glissement, ça concerne plutôt les personnes âgées, c'est ça?
Oui, exactement. C'est une pathologie qui a été décrite par un gériatre français dans les années 50 et ça touche plutôt les personnes âgées de plus de 70 ans qui, après une pathologie quelconque, ça peut être une chute, une intervention chirurgicale, un décès, une infection, vont tout d'un coup se laisser aller, le syndrome de glissement, comme si on se laissait glisser le long de la vie et puis
elles
qu'on attendait la mort,
vivre.
Tout simplement. Et donc, ça a une vraie répercussion puisque le pronostic est très mauvais.
Quels sont les signes qui doivent alerter?
Alors, on le comprend, dans le syndrome de glissement, il y a le laisser-aller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des personnes qui vont en quelque sorte perdre goût à la vie. Un peu comme si on était déprimé, mais en plus sévère. C'est des personnes qui vont refuser de s'alimenter, de boire, de discuter, de parler, de prendre leur traitement, évoluer vers une forme de mutisme où ils vont juste attendre la mort. Et comme je vous le disais, c'est très dangereux puisque ça aboutit dans 80-90% des cas au décès lorsque ce n'est pas pris en charge. Donc, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, mais heureusement, ça reste rare, c'est 1 à 4% des personnes âgées qui vont souffrir d'une pathologie aiguë.
Donc c'est récupérable, mais comment ça se soigne? C'est un accompagnement psychologique, des médicaments?
Exactement, alors ça ne se soigne pas vraiment puisque l'idée c'est de le prévenir, d'éviter d'arriver à ce syndrome de glissement. Et ce qui peut arriver, c'est lorsque une personne doit être mise dans un EHPAD ou dans une maison de retraite, tout d'un coup ses repères sont perdus, sont bouleversés et elle peut se laisser aller vu qu'elle n'a plus envie de vivre. Eh bien, c'est de préparer tous les changements de la vie qui vont accompagner une personne âgée, donc avant une intervention chirurgicale, si jamais on doit opérer d'une hernie ou d'une prothèse, bien expliquer le contexte, l'entourage, et ne pas attendre la dernière minute qu'on soit un peu au pied du mur et se dire « Oh là là, c'est la catastrophe, il faut agir dans l'urgence, il faut passer par la case d'hôpital ». Donc le meilleur traitement, c'est la prévention. Et puis souvent, ils font un accompagnement. C'est très difficile de traiter un syndrome de glissement à la maison. En règle générale, elles sont hospitalisées, puisque comme je vous le disais, elles mangent moins, donc ça s'accompagne de carences, de déshydratation, et donc parfois aussi de dénutrition.
Alors, on pense au contexte actuel. Est-ce qu'avec le contexte sanitaire, l'isolement de certaines personnes, il faut surveiller un petit peu plus ce syndrome en ce moment?
Exactement. Souvenez-vous du drame des EHPAD. On a confiné les EHPAD puisqu'on n'avait pas de masque et pas de test. Désormais, c'est fini. On peut rendre visite et il faut rendre visite aux personnes âgées, mais en étant masquées. Même elles doivent porter un masque, vu que nous pouvons tous être asymptomatiques, c'est-à-dire ne pas avoir de symptômes de Covid et quand même les contaminer. Donc, rendez visite à vos personnes âgées. Ça ne pose aucun problème. Tant qu'elles, elles sont masquées et que vous, vous l'êtes, eh bien, vous pourrez, dans de bonnes conditions, passer un moment agréable. C'est valable aussi pour le voisin de palier que vous pouvez avoir. Donc, on peut rendre et on doit rendre visite à nos personnes âgées, même en période de Covid.
C'est noté, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur, c'est celle d'Anthony.
Je vous ai entendu une fois dans l'émission parler d'athérosclérose et je crois me souvenir que c'est les artères qui se bouchent. Mais ça se bouche avec quoi, en fait? Merci.
Alors, moi, j'ai lu que athérosclérose, ça venait du grec athéra, qui signifie bouillie, et sclérose, qui signifie dur. C'est quoi cette bouillie dure?
Je vois qu'Anne, vous avez fait aussi du grec, comme moi, pendant de nombreuses années, et ça a porté ses fruits. Nous voilà ici. Alors oui, vous avez raison, c'est de la bouillie dure. Donc, à partir de ce moment-là, c'est assez intuitif. C'est au niveau des artères, des plaques qui vont se constituer de cellules inflammatoires et de lipides qui vont, en quelque sorte, obstruer le passage du sang au travers des vaisseaux qui sont censés irriguer nos organes. Et donc, à terme, c'est responsable de maladies cardiovasculaires.
Alors, c'est la première cause de mortalité et d'invalidité dans les pays développés. Quel est le problème dans nos modes de vie?
Alors, c'est lié, et comme vous le dites, à nos modes de vie. C'est lié au fait qu'on va être en surpoids et donc on va moins bien manger. Donc, on va avoir des plaques de cholestérol qui vont se créer et qui vont tout d'un coup, parfois, dissoudre et lâcher un petit caillot qui va migrer vers le cœur, donnant un infarctus, vers le cerveau, donnant un accident vasculaire cérébral, ou qui peut aussi bloquer la circulation sanguine au niveau des pieds. Ça donne ce qu'on appelle l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, un mot barbare pour dire que les artères du pied se bouchent et ça pose problème. Donc le surpoids, le tabac, le diabète, l'inactivité, tous les modes de vie qui font que on a tendance à se laisser aller.
Et à partir de quel âge est-ce que les artères se bouchent ?
Alors, plus on vieillit, plus le risque augmente.
D'accord.
Les femmes sont un peu protégées avec les hormones, mais étant donné qu'elles ont changé leur mode de vie jusqu'à la ménopause, eh bien, à partir de ce moment-là, leur risque augmente comme les hommes. Mais attention, vous pouvez faire un infarctus à 40 ans si vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour, si vous mangez mal et que vous ne pratiquez pas d'activité physique. Donc l'âge, c'est un facteur un peu d'orientation. Il faut prendre soin de soi dès 20 ans, pas obligé d'attendre d'être malade pour se soigner.
Merci Jimmy. Alors si vous aussi, comme Anthony qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé-bien-être au 39-21, 50 centimes la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Je suis heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h et c'est le moment d'accueillir notre invitée du jour. Bonjour docteur Sophie Gottmann.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dermatologue, chirurgienne et auteur de Vos ongles, tout un monde aux éditions Actes Sud. S'occuper de ses ongles, ça peut paraître futile comme ça, mais vous nous dites que non, nos ongles sont importants. Rappelez-nous d'abord pourquoi nous les humains, nous sommes équipés de ces petits ongles au bout des doigts.
Bien, les ongles ont un rôle, et un rôle important même. On dit que les ongles terminent harmonieusement l'extrémité des doigts et des orteils. Ils les protègent, ils les embellissent. Donc le rôle de l'ongle, c'est effectivement un rôle esthétique. C'est un rôle de protection.
D'accord.
Ce sont comme des petits boucliers qui protègent l'extrémité de nos doigts. Ils ont un rôle dans l'appréhension fine, l'appréhension des petits objets, les gestes fins comme le lassage, le boutonnage. Ils servent à se gratter, ils servent à griffer, ils peuvent être des armes.
D'accord.
Et ils ont également un rôle un peu méconnu. Ils donnent une meilleure sensibilité de l'extrémité des doigts, puisqu'en fait, la pulpe est très sensible et les mouvements de la pulpe, on les sent. Et s'il n'y avait pas cette plaque de kératine dure pour faire contre-appui, on aurait une moins bonne sensibilité des extrémités.
Jimmy ?
Passionnant. Même moi, j'apprends des choses. C'est incroyable. Ces ongles, ils apparaissent dans le ventre de la maman déjà. Comment est-ce qu'ils sont formés ?
Ils sont formés à partir de la matrice de l'ongle. La matrice de l'ongle, c'est cette petite peau blanche qui est cachée sous le repli au-dessus de l'ongle. Et ce que l'on voit, on en voit à la fin, c'est la lunule. La lunule, c'est la fin de la matrice. Ensuite, ils descendent et ils s'allongent sur le lit de l'ongle, qui est le rose qu'on voit à travers l'ongle, pour finalement arriver jusqu'à l'extrémité du doigt ou de l'orteil. Ils apparaissent alors blancs, c'est ce qu'on appelle le bord libre, celui que l'on coupe.
Et ils poussent tous à la même vitesse, les ongles ?
Non, les ongles des mains poussent beaucoup plus vite que ceux des orteils, puisque un ongle de main, c'est à peu près 3 mm par mois, environ bien sûr, en fonction de différents facteurs, environ 3 mm par mois pour 1 mm par mois aux orteils. Donc c'est beaucoup plus lent au niveau des orteils.
Et ils poussent plus vite en été aussi, non ?
Ils poussent plus vite en été, quand il fait chaud, sur la main dominante, sur les doigts les plus longs. Et surtout, en fonction de l'âge.
Ah.
Chez les enfants, les personnes jeunes, ça pousse beaucoup plus rapidement qu'à un âge tardif.
Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas qu'une illusion
de croire.
Oui, on
les coupe souvent, les ongles des enfants.
C'est vrai qu'on les coupe souvent, toutes les semaines. D'ailleurs, à partir de quel âge on commence à couper les ongles d'un enfant ?
Dès qu'ils sont trop longs, tout petits. Ah oui. Ils se griffent sinon.
Et c'est toujours un exercice délicat. On redoute l'infection si on va trop près de la peau. Il y a une technique pour s'y prendre chez le très très jeune enfant ?
Il faut un tout petit ciseau courbe et bien adapté. Il y a des ciseaux spéciaux pour les nouveau-nés.
Alors, à l'autre bout de la vie, l'ongle peut se fragiliser avec l'âge. Comment ça s'explique ?
Alors, l'ongle se fragilise. Déjà, il y a beaucoup de facteurs extérieurs, puisqu'on a dit que c'était ils servent à la protection des doigts. Ils sont exposés à des traumatismes, ils sont exposés à des produits que l'on manipule, comme à l'eau, à l'humidité. Tout ça sont des facteurs qui fragilisent les ongles, j'ai envie de dire, quel que soit l'âge de la vie. Il est vrai que plus on avance en âge, plus la fragilité des ongles est fréquente. D'abord, ils se renouvellent moins vite, donc ils sont plus longtemps exposés aux différents facteurs. Et c'est vrai que chez les personnes très âgées, ils sont souvent plus secs, il y a moins d'eau à l'intérieur. Or, l'eau, la quantité d'eau dans l'ongle est importante pour la consistance. Et la cohésion des kératinocytes entre eux, qui sont les cellules de l'ongle, elles sont un petit peu moins cimentées les unes entre les autres. Et donc, il y a des fragilités avec des dédoublements des ongles.
Donc, un ongle qui est moins bien hydraté, c'est un ongle qui est plus fragile. Ça veut dire que peut-être on peut en prendre soin. Est-ce qu'on peut mettre des crèmes ou des huiles, justement, pour éviter d'arriver à cette fragilité ?
Alors, la première des choses pour éviter la fragilité, c'est de porter 2 paires de gants. Un petit gant de coton, plus un gant imperméable pour tous les travaux ménagers humides et ou caustiques.
Deux paires de gants ?
Oui.
Parce que les gens n'en portent même pas une. Une paire, c'est déjà donc deux.
Le souci, c'est que si vous mettez vos mains très longtemps, enfin plusieurs minutes, dans des gants en plastique, en vinyle ou en latex, vous allez avoir une humidité, votre propre humidité, et vous allez mouiller vos ongles.
D'accord, donc deux paires de gants. Une paire, on vous a dit, en premier, en coton ?
En coton très fin, donc ça, faut trouver des gants de coton très fins, et une petite paire de gants imperméables par-dessus. Ça, c'est la première prophylaxie des ongles fragiles.
D'accord.
Donc, c'est vraiment l'eau qui est l'ennemi de l'ongle ?
Alors, à la fois, c'est particulier, parce que l'eau est l'ennemi de l'ongle, mais à la fois, s'il manque d'eau, il est fragile. Le degré d'hydratation idéal de l'ongle, c'est 16 à 18%. S'il a plus d'eau, il est tout mou. S'il a moins d'eau, il est très sec. Donc, l'ongle a besoin d'eau pour être flexible.
Donc, pas de crème ou d'huile
Alors,
particulière ?
Alors, si, on peut mettre. Quand les ongles sont trop secs, par exemple, chez les personnes très âgées qui ne boivent pas ou qui sont diabétiques, et que les ongles sont très secs, on peut les hydrater avec des crèmes hydratantes qui vont humidifier les couches superficielles de l'ongle. Si, au contraire, quand vous sortez de l'eau avec des ongles qui sont restés dans un bain ou dans une douche, si vous appliquez une préparation émolliante en surface, vous allez freiner la déshydratation de l'ongle. Mmh. Donc, les crèmes émollientes et grasses, elles servent à maintenir le degré d'hydratation de l'ongle, alors que les crèmes très hydratantes, elles humidifient l'ongle.
Alors, j'ai l'impression que les hommes s'en plaignent un peu moins. Est-ce que leurs ongles sont plus résistants que ceux des femmes ?
Les hommes s'en plaignent un peu moins. Certains s'en plaignent quand même. Leurs ongles sont souvent un peu plus épais. Et ce qui constitue l'ongle, la kératine de l'ongle et le ciment entre les cellules de l'ongle est plus solide. C'est pour ça que dans mon lit, je propose éventuellement de leur faire faire la vaisselle, nous aider en tout cas, puisqu'ils ont les ongles pour.
C'est une bonne idée. Alors, on a parlé de l'eau, il y a aussi la question des chocs, notamment pour les sportifs. Alors, soit quand on a les ongles de pied comprimés dans une chaussure, ou quand on est sportif, qu'on a des hématomes à répétition, c'est dangereux ça pour l'ongle ?
Alors, la réponse est oui. Et la première des règles, c'est d'avoir les ongles coupés comme il faut au pied.
Ah, alors couper comme il faut, c'est comment ?
Alors, c'est très particulier, mais c'est carré, en gardant les angles de chaque côté pour éviter l'ongle incarné, mais court devant, ce qui peut conduire chez certaines personnes à couper en arc de cercle vers l'intérieur, de manière à ce que ce soit bien la chair qui bute dans la chaussure et pas l'ongle.
D'accord.
Ça évite beaucoup d'hématomes qui peuvent ensuite donner des chutes d'ongles à répétition. Et quand on perd son ongle à répétition à cause du sport, eh bien les parties molles autour de l'ongle qui sont maintenues en place par la kératine dure, elles se resserrent. Et quand l'ongle revient, repousse en plusieurs mois, eh bien, on a des problèmes de réinstallation de l'ongle sur son support et d'incarnation de l'ongle dans les replis latéraux et même dans le repli distal, dans l'extrémité de la chair au bout, qui se relève puisqu'il n'y a plus d'ongle pour appuyer dessus. Et à la repousse, on a des ennuis.
On a des ennuis.
Parfois des séquelles importantes qui sont malheureusement souvent à tort prises pour des mycoses, alors que ce sont en fait des séquelles de traumatisme.
Nous allons poursuivre cet entretien avec vous, Sophie Gutmann. On a encore pas mal de choses à apprendre sur nos ongles.
Sans rendez-vous 15h-16h sur Europe 1. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour cette émission Santé et Bien-être. Vous êtes les bienvenus sur notre plateau aujourd'hui. Notre invité du jour, c'est vous, docteur Sophie Gutmann, dermatologue, auteur de « Vos ongles, tout un monde » paru chez Actes Sud. Alors les ongles, c'est comme la peau ou les cheveux, ils subissent des agressions au quotidien. Quels sont les grands ennemis ? On l'a vu, c'est l'eau, les produits d'entretien. Il y en a d'autres. Je pense au gel hydroalcoolique en ce moment. Est-ce que c'est un problème ?
C'est un peu desséchant, mais plus pour la peau que pour l'ongle. Les ongles supportent assez bien, finalement.
Finalement.
Heureusement.
Et est-ce qu'il y a dans les produits d'entretien des choses qu'on devrait éviter d'utiliser ? Est-ce que, vu qu'on en utilise plein, est-ce qu'il ne faudrait pas réduire la liste pour éviter l'agression ? Parce que l'eau, ok, si on prend une douche, je pense que ça ne pose pas de problème, mais c'est l'eau et les produits chimiques ?
C'est tout ce qui est détergent alcalin, tout ce qui est basique. Donc les lessives. Les produits vaisselle, tous les produits détergents.
D'accord.
Plus l'eau qui elle-même est agressive.
Et si on veut utiliser du vinaigre ou du bicarbonate de soude, là
On peut le faire à main nue, mais forcément, vous endommagez la kératine de l'ongle.
Est-ce que la météo actuelle, puisqu'il commence à faire froid, peut avoir un impact sur l'ongle ? Est-ce qu'ils sont plus sensibles aux variations de température ?
Bien, quand c'est très humide, les ongles sont plus humides et parfois plus mous. Quand il fait froid, au contraire, ils sont plus secs.
Et les vernis cosmétiques ou les dissolvants, est-ce que ça peut aussi abîmer l'ongle ?
Si vous portez du vernis standard, 5 jours sur 7, que vous mettez du dissolvant plutôt sans acétone une seule fois par semaine, et que les deux jours ils sont à l'air libre, vous leur mettez des crèmes émollientes ou des huiles végétales par exemple, tout va bien.
Tout va bien. Et le fait de mettre des couches de préparation, ça sert à quelque chose ?
C'est-à-dire une base.
Une base.
La base sert à éviter la pigmentation des couches superficielles de l'ongle par les vernis de couleur, surtout les vernis très foncés, les vernis très colorés, les bleus marines, les rouges très foncés.
Et justement, avec toute cette gamme de couleurs que je ne connais pas et de vernis, est-ce qu'on peut être allergique justement à ces vernis ? Est-ce qu'on peut faire des réactions ?
Il y a des réactions allergiques aux vernis, principalement à la résine. Alors, je ne vais pas vous donner le nom, mais il y a une résine qui contient du formaldéhyde, la tosylamine résine, bon, peu importe. C'est en tout cas souvent à cette résine qui sert à augmenter l'adhérence du film de nitrocellulose à la surface de l'ongle, donc qui est présente dans beaucoup de vernis, qu'on est allergique. Et lorsqu'on est allergique à un vernis, c'est difficile de s'en rendre compte parce que les signes ne sont pas localisés au niveau des doigts, ils sont localisés sur les régions que l'on touche. Alors, les paupières, les faces latérales du cou...
Ah oui, c'est...
Donc on
ne
fait pas de réaction locale sur l'ongle, il ne va pas devenir rouge, inflammatoire, douloureux.
Les réactions allergiques, par exemple, les réactions allergiques à la colle cyanoacrylate pour coller des faux ongles ou pour réparer un ongle se manifestent sur les extrémités. Mais les allergies à la résine du vernis se manifestent à distance, ce qui fait que ça... Alors les dermatologues savent et reconnaissent bien sûr des allergies au vernis, même s'il y a ce piège.
Et donc si on a des taches sur le visage, ça peut être dû au vernis autour des paupières.
Autour des paupières, des plaques.
Alors...
Non, mais ça, je vous coupe la parole, mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'ongles sans parler de ceux qui se rongent les ongles. Est-ce que c'est si fréquent que ça ?
Oui, c'est fréquent. C'est très fréquent chez l'enfant, chez les jeunes, jusque même chez les étudiants. C'est beaucoup moins fréquent à l'âge adulte, où finalement on change de geste. On n'ose pas mettre ses mains dans la bouche parce que ce n'est pas très esthétique. Donc on met plutôt les mains sous la table et on agit. Ce sont nos doigts eux-mêmes qui agissent sur les ongles. C'est ce qu'on appelle une onychotylomanie, qui est une variante de l'onychophagie. Onychophagie, le fait de se manger les ongles, et onychotylomanie, le fait de s'arracher, de se gratter, mais ça fait également beaucoup de dégâts.
Et quand on peut stopper facilement cette manie ?
On peut stopper cette manie, il faut avoir envie de le faire. Mm-hmm. Il est préférable de ne pas avoir arrêté de fumer quelque temps avant, parce que je déconseille en général...
Ça fait deux challenges.
C'est exactement. Il faut surtout rassurer, expliquer que c'est possible d'arrêter quand, en général, sauf dans les formes extrêmement graves, à l'arrêt des traumatismes, les ongles repoussent normalement ou pratiquement. Donc déculpabiliser. La méthode des pansements tournants, une petite méthode qui est sympathique, où on fait porter des pansements, un certain type de pansement sur quelques ongles, on continue d'abîmer les autres, et puis quelques mois plus tard, les ongles qui étaient sous pansement sont jolis, et là on compte sur sa propre volonté pour ne pas réendommager ce qu'on a sauvé.
C'est astucieux.
Et finalement, j'ai pas mal de patients qui gardent un auriculaire complètement ravagé parce qu'ils ne manipulent que celui-là.
Voilà. Parce que justement, au-delà du préjudice esthétique, est-ce qu'il y a un risque pour nos ongles de les abîmer autant ? Parce que oui, c'est moche, mais finalement on vit bien qu'il n'y a pas de retentissement, le patient, lui, ne peut ne pas comprendre pourquoi il faut arrêter.
Alors ça, je suis bien d'accord avec vous, c'est à lui de décider d'arrêter, et à personne d'autre. Les risques sont quand même faibles. Qu'est-ce qu'on risque ? À force de les garder très courts, le lit de l'ongle, dont on a parlé tout à l'heure, qui est cette petite peau rose sur laquelle colle l'ongle, eh bien en fait, il se change en peau. Ça veut dire que la peau du bout du doigt, elle vient à la place du lit en dessous, donc l'ongle va se détacher plus tôt. Donc vos ongles, le rose va être plus court et le blanc plus long, donc ils vont paraître un petit peu différents. Ça, c'est une première chose. Le plus embêtant, c'est que parfois, on peut, en tirant une petite peau autour de l'ongle, déclencher un panari. Hein, c'est ça. L'autre chose, éventuellement, il n'y a plus de cuticule. Or, la cuticule qui sertit l'ongle, elle sert à protéger la région de la matrice et à éviter que tous les produits manipulés aillent en dessous, y compris les produits alimentaires humides. Donc, en l'absence de cette barrière qui constitue un joint d'étanchéité, tout va passer sous le repli, entraînant une inflammation, ce qu'on appelle un péryonyxis, un pourtour de l'ongle totalement rouge et gonflé. Et comme la matrice est dessous, l'ongle ne pousse plus tout à fait normalement à cause de l'inflammation susjacente.
Alors, rapidement, vous dites dans votre livre qu'il y a 10% des femmes enceintes qui ont des ongles incarnés. C'est dû à quoi ?
Alors, l'ongle incarné, c'est fréquent.
Et quand on est enceinte ?
C'est une inadéquation entre la taille et ou la forme de l'ongle et les parties molles autour. Soit l'ongle est trop large ou plié, soit les parties molles autour sont trop grosses. Alors, en cas de grossesse, à la fin de la grossesse, les jambes sont souvent gonflées, on a souvent des œdèmes, et donc les parties molles autour de l'ongle sont trop grosses.
Docteur Goodman, on va faire une courte pause, on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Et nous continuons à parler de la santé de nos ongles. Nous sommes toujours en studio avec le docteur Sophie Goodman. Vous nous dites, Sophie Goodman, que l'aspect de nos ongles, ce n'est pas juste futile. Les ongles sont aussi le miroir de notre santé. Expliquez-nous.
Les ongles peuvent être le miroir de notre santé. En effet, toutes les maladies, pratiquement toutes les maladies, peuvent retentir sur eux.
Ça veut dire quoi ? Que vous voyez à l'aspect des ongles, vous pouvez faire un diagnostic ?
Alors, on peut faire un diagnostic d'une maladie inconnue de l'organisme par un examen clinique des ongles. C'est vrai que ce n'est pas très fréquent. Mais toutes les maladies peuvent retentir sur l'ongle. Et finalement, quand on regarde entre les maladies qui peuvent retentir sur nos ongles, les maladies de la peau qui peuvent se localiser dessus, tout ce qui est traumatique, les complications des cosmétiques, finalement, tout le monde dans sa vie a un problème d'ongle un jour ou l'autre, même un petit.
Oui, parce qu'il y a des pathologies qui sont assez connues du corps médical, comme d'avoir les ongles en baguette de tambour. C'est-à-dire, comme une baguette de tambour, ça peut être révélateur d'une pathologie respiratoire.
Absolument, c'est l'Hippocrate.
C'est vraiment une baguette de tambour.
C'est l'hippocratisme digital qui a été décrit par Hippocrate dans les empièmes, donc du pus dans une cavité du corps, qui est une affection qui déforme les ongles et qui les bombe, et que l'on rencontre dans des affections respiratoires ou cardiaques. Il y a le syndrome des ongles jaunes aussi, avec des ongles jaunes très épais qui s'arrêtent de pousser et qui sont en rapport avec une sinusite chronique ou une pathologie respiratoire chronique.
Et quelles sont les grandes maladies qui affectent l'ongle ?
Les maladies dermatologiques, les plus grandes maladies dermatologiques qui affectent l'ongle sont le lichen et le psoriasis. Le lichen ayant un critère de gravité puisqu'il est capable de détruire définitivement des ongles et il nécessite un traitement en urgence.
Alors qu'est-ce que c'est que le lichen ? Parce que pour les auditeurs, je pense que ce n'est pas tout.
Bien sûr, le lichen est une maladie inflammatoire qui attaque la jonction entre la couche superficielle de la peau qu'on appelle l'épiderme et le derme. Quand ça atteint la matrice de l'ongle, ça bloque la fabrication de l'ongle.
Donc il y a le lichen et puis il y a une autre maladie, vous avez dit...
Le psoriasis, qui est beaucoup plus fréquent.
Le psoriasis, les gens connaissent en général les plaques au niveau de la peau, des coudes et pas forcément l'atteinte qui peut se découler au niveau des ongles.
Qui est très fréquente chez les gens qui ont du psoriasis. Et surtout, il y a des personnes qui n'ont du psoriasis que sur les ongles.
Et comment ça se manifeste ? Parce que parfois, les gens, c'est souvent une maladie qui est sous-évaluée,
sous-diagnostiquée. C'est sous-évaluée et c'est pris à tort pour une mycose et traité tel quel. Le psoriasis, s'il touche la matrice de l'ongle, c'est la tablette elle-même. Donc l'ongle lui-même qui va être abîmé, qui va être déformé, tordu, bosselé, avec des petits trous par exemple. Si au contraire, c'est le lit de l'ongle, c'est ce rose sur lequel colle l'ongle va se décoller. C'est une des grandes causes de décollement de l'ongle.
Et toutes ces maladies se traitent bien ?
Ces maladies se traitent bien. On a des succès thérapeutiques. Ce n'est pas constant.
Vous parlez de décollement de l'ongle, mais souvent, ce qu'on peut voir en médecine générale, au cabinet, c'est des gens qui vont avoir un traumatisme de l'ongle avec un petit hématome et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qu'on doit faire justement si on a l'ongle qui se décolle suite à un traumatisme ?
Alors, l'ongle qui se décolle suite à un traumatisme avec un hématome.
Oui.
Alors, si un hématome de petite taille, on ne l'évacue pas. Si c'est un hématome de grosse taille qui fait souffrir, il faut l'évacuer.
Et parfois, les médecins peuvent aussi, alors je ne sais pas si c'est très recommandé, mais percer justement avec une petite aiguille chaude,
chauffer, ouais.
Exactement, pour évacuer le liquide, c'est très impressionnant, mais souvent ça soulage.
J'ai fait un petit dessin très joli dans mon livre où on voit toute une série d'ongles avec des hématomes et le trombone qui arrive. C'est réservé effectivement aux hématomes important. Et personnellement, c'est pas la technique que j'utilise. Je préfère prendre un bistouri et décaper tangentiellement les couches de l'ongle. Ça fait moins peur aux patients et c'est aussi efficace.
C'est vrai que c'est plus dermatologue, effectivement. C'est plus simple. Et si l'ongle tombe carrément, est-ce qu'on doit le jeter à la poubelle ou est-ce qu'on doit absolument le conserver ?
Eh bien, si l'ongle tombe complètement après un traumatisme, je conseille de le scotcher.
D'accord.
Et de le garder en place, surtout au niveau d'un doigt moins, mais au niveau d'un gros orteil. C'est très important pour maintenir les parties molles en place. Et chaque semaine de gagner est une semaine de gagner. L'ongle va maintenir les parties molles, c'est très important.
Donc
et protéger le lit de l'ongle.
Donc du scotch
On
embobine.
Oui, on essaie de le maintenir en place dans ses sillons, de le scotcher, de le sécher au séchoir après la douche. Quand un ongle est décollé, c'est bien de le sécher au séchoir après la douche, aux orteils, pour éviter la macération, l'humidité sous l'ongle.
Et en revanche, il est impossible de le recoller de façon chirurgicale, d'aller voir un dermatologue pour essayer de le remettre si jamais la matrice était atteinte ?
Alors, quand un ongle est décollé ou quand un ongle tombe, la matrice n'est pas abîmée. Il faut vraiment un traumatisme très violent de la région matricielle pour ne plus avoir de matrice fonctionnelle.
Donc ça repoussera ?
En général, ça repousse. Après, il existe des traumatismes dramatiques où l'ongle ne repousse pas. Enfin, ce n'est pas le plus fréquent. Hein.
Alors, si on en reste comme ça, à des aspects inhabituels de l'ongle, une tache blanche sur un ongle, on dit parfois que c'est un manque de calcium. Est-ce que c'est juste ?
Non.
Non, c'est clair.
Alors,
dites-nous.
Une tache blanche, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ongle a très peu de modes d'expression. Mm-hmm. Donc une tache blanche, je peux vous citer 200 maladies qui vont donner une tache blanche. Elles vont toutes être plus ou moins différentes, mais ce n'est pas un signe spécifique. Ce qui est sûr, c'est que le calcium n'a rien à voir avec l'ongle et que ces fameuses petites taches blanches que l'on voit se répéter, où on disait, c'est des mensonges. Autrefois, je vous rappelle que dans l'histoire de l'ongle, on disait que c'était des mensonges. Les petites taches blanches servaient à compter les mensonges ou les jurons qu'on avait prononcés. Chez les diseuses de bonne aventure, c'était des signes de bon augure. Hein. Ça allait apporter le bonheur. On a dit beaucoup de choses sur ces petites taches blanches. Et effectivement, les médecins ont même dit que c'était des fuites de calcium, comme le docteur Cartron au début du XXe siècle, qui défendait une médecine non conventionnelle, était convaincu que c'était une fuite de calcium. Le calcium n'a rien à voir là-dedans. C'est juste que quand vous traumatisez la matrice de l'ongle qui fait l'ongle, elle ne le fait pas comme il faut. Il y a un trouble de la kératinisation, de la formation de kératine. Les cellules gardent leur noyau et la partie d'ongle n'est plus transparente à la lumière. Donc non, il n'y a pas de problème de calcium.
En général, ça n'inquiète pas trop les patients. Ils ont compris finalement que c'était une idée reçue, que ce n'était pas très grave. Mais en revanche, ce qui peut les inquiéter, c'est d'avoir des petites stries noires, des petites bandes qui apparaissent au niveau de l'ongle. Si l'ongle change de couleur, il faut consulter.
Alors, l'ongle change de couleur, dans... et encore pareil, plein de situations. Parlons des petites traits noires. Des petites traits noires au bout des ongles, des petits fils. Mm-hmm. On dit des hémorragies filiformes. C'est pareil, c'est un signe pas spécifique du tout. Vous pouvez en trouver dans des maladies cardiaques, dans des vascularies, dans plein de choses. Souvent, ça a saigné sous l'ongle. Pourquoi ? Vous avez décollé un timbre avec un ongle un peu long. Vous avez tiré sur l'ongle qui a bougé sur son support. Et comme le lit de l'ongle est une peau toute striée, la petite hémorragie, elle s'est mise dans les petits canaux qui sont sous l'ongle. Donc ça fait des petits fils. Donc c'est juste des petites hémorragies de rien du tout. En général, c'est ça.
Et ça régresse en quelques
jours. En quelques semaines. Jours ou semaines, quand même. Ouais. Par contre, une ligne noire verticale continue, qu'on appelle, en termes médical un peu savants, une mélanonychie longitudinale, ça ressemble à un code-barre. Le plus souvent, ce n'est rien, mais ça mérite absolument une attention, car certaines de ces bandes noires peuvent correspondre à un mélanome débutant. Il faut absolument consulter son dermatologue, surtout si la bande s'élargit, se modifie au cours des mois.
Et quand c'est l'ongle lui-même, la surface qui est striée, qu'est-ce que ça signifie ?
Les ongles striés peuvent, par exemple, être dus à un psoriasis, à un lichen, à une pelade, à plein de maladies. Mais il existe avec le temps qui passe, l'ongle se strie. C'est le devenir de l'ongle, en fait. Donc, ce sont des stries physiologiques qui, en général, sont peu nombreuses, qui peuvent s'accompagner d'une fragilité. On ne peut pas faire disparaître des stries physiologiques. Par contre, on peut lutter contre la fragilité qui va avec.
Est-ce qu'une pathologie de l'ongle peut révéler quelque chose d'un peu plus méchant, comme on va voir le dermatologue pour surveiller des grains de beauté ? Est-ce que ça pourrait révéler certaines tumeurs, par exemple ?
Toute lésion chronique, traînante, inexpliquée, d'un seul doigt ou d'un seul orteil, doit de principe faire suspecter une lésion ennuyeuse et doit amener à consulter. Ça peut être une fissuration dans un sillon, ça peut être un ongle qui se décolle, qui suinte en dessous, une ligne noire, on l'a vu, une tache bizarre qui s'étale. Toute anomalie d'un seul doigt ou d'un seul orteil doit rendre méfiant.
Alors, moi j'ai appris en lisant votre livre que Bob Marley était mort d'un mélanome au gros orteil.
C'est exact.
C'est quelque chose qu'il n'avait pas diagnostiqué ?
Je ne connais pas exactement l'histoire. Le diagnostic a été fait. On dit, mais est-ce que c'est vrai ? Parce qu'on dit beaucoup de choses. On dit qu'il n'aurait pas accepté le traitement. Je n'ai pas les détails, mais il est décédé d'un mélanome du gros orteil.
Parce que justement, comment ça se traite un mélanome d'un orteil, enfin d'un ongle ? On retire.
Il démarre souvent par une bande noire verticale. Attention, je répète, toute bande noire n'est pas un mélanome. Il y a quand même 3% de la population qui a une bande noire. Que tout le monde n'ait pas un mélanome en écoutant l'émission, ça ne serait pas possible. Donc, ça peut commencer par une bande noire. À ce stade-là, c'est encore dit in situ, c'est-à-dire extrêmement superficiel et tout à fait curable par un traitement chirurgical simple. Donc, c'est vraiment important de dépister ce mélanome au tout début.
Chez les enfants, les symptômes sont les mêmes quand on voit des points noirs chez les enfants ou les hématomes sont plus courants, parce que les chocs sont plus courants.
En fait, non, les hématomes ne sont pas forcément plus courants. Par contre, les accidents graves comme les doigts de poussette, des délabrements importants des extrémités des doigts sont fréquents chez les enfants. Je ne suis pas sûre que les hématomes soient plus fréquents. Les hématomes, c'est vraiment très fréquent chez tous les sportifs. Ça, c'est une pathologie particulièrement courante. Les enfants, quand c'est une ligne noire, c'est un névus en général. Mm-hmm. Sinon, les enfants font des ongles incarnés, ils font du psoriasis, ils font du lichen, ils font toutes les maladies des grandes personnes. Et ils ont parfois quelques malformations.
Dernière question ultra pratique. Est-ce qu'il y a des chaussures que vous déconseillez ? Est-ce que... on a des mauvaises habitudes pour se chausser et qui causent des problèmes à nos ongles de doigts de pied.
En théorie, nos ongles devraient être confortables dans les chaussures, nos orteils bien étalés. Nous avons des pieds qui sont des rectangles et nous les casons, nous les femmes, dans des chaussures qui sont des triangles. Donc, essayer de rentrer un rectangle dans un triangle, tout le monde se chevauche, les orteils se montent les uns sur les autres, les ongles frottent, sont traumatisés. Et oui, on peut avoir des corps sous les ongles, d'ailleurs souvent pris à tort pour des mycoses. On peut avoir des corps sous les ongles, des ongles en pince, des ongles incarnés, parce qu'on est un peu perché sur des talons et avec des chaussures triangulaires. On dit que l'idéal pour le talon, c'est 3,5-4 cm. Et puis qu'il est préférable de garder ce type de chaussures pour des occasions, des dîners.
Occasionnellement.
Il est préférable de ne pas faire des courses ou de prendre le métro avec des chaussures où les pieds ne sont pas confortables.
Merci beaucoup, Dr Sophie Guttmann, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On redonne le titre de votre livre. Ça s'appelle « Vos ongles, tout un monde ». C'est paru chez Actes Sud. Nous ne regarderons plus désormais nos ongles comme avant. Merci encore. Europe 1. Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien avec un focus aujourd'hui sur l'anémie. A tout de suite.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Nous sommes très heureux de vous accompagner jusqu'à 16h. Tout de suite, c'est notre séquence Les Bobos du quotidien. Le docteur Jimmy Mohamed répond tout haut à toutes les questions qu'on se pose tout bas. Alors, on parle aujourd'hui de l'anémie. On le sait, l'anémie a quelque chose à voir avec la fatigue, avec le sang, avec le fer. Mais les liens ne sont pas toujours très clairs. Notre journaliste Benjamin Lévesque a pu s'en rendre compte dans la rue.
L'anémie, ça fait penser à amnésie. Peut-être cérébralement, peut-être rester bloqué sur un événement dans le passé ou quelque chose comme ça. Je crois que je ne sais pas ce que c'est.
On n'a pas mangé et donc on se sent faible. Donc on appelle ça une anémie. On a soit des vertiges, on ne se sent pas tellement bien, une sorte de malaise, quoi.
Je sais que ça a rapport au sang. Être anémié, c'est pas quand on manque de fer. Il y a aussi le fait peut-être chez certaines femmes de ne pas consommer assez de viande. J'ai jamais entendu qu'on en mourait, mais je pense que ça peut quand même avoir des conséquences graves.
Un manque de fer dans le sang. Souvent, on trouve ça chez les femmes. Les femmes, oui, souvent, peut-être qu'elles sont fatiguées pendant les périodes de règles. Donc c'est certainement dû à l'anémie, j'imagine.
Peut-être un petit recours au fer, par des petits comprimés et puis de l'alimentation peut-être un peu plus riche en fer. Plus de viande rouge de temps en temps, des lentilles, des épinards, je sais pas, tout ce qui contient du fer.
Il faut prendre un morceau de sucre pour réduire le malaise d'anémie.
Alors, docteur Jimmy Mohamed, il faut nous rafraîchir l'esprit, l'anémie.
Ah oui, parce que, alors là, on en a eu des micro-trottoirs, mais alors celui-là sur l'anémie, un truc qui paraît tellement simple, eh bien pourtant les gens sont un peu perdus.
Alors c'est quoi exactement?
L'anémie, c'est la baisse de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui permet aux globules rouges de transporter l'oxygène vers les organes. Donc vous êtes anémié si vous manquez d'hémoglobine et peut-être une carence en fer, mais toutes les anémies ne sont pas liées à des carences en fer.
Alors, est-ce que ça se voit, l'anémie? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est anémié? Est-ce qu'on peut être pâle? C'est une légende ou pas, ça?
Alors, ce n'est pas une légende, puisque c'est ce qui va donner la couleur à certains téguments. Et donc, lorsqu'on est pâle, c'est qu'on manque effectivement d'hémoglobine. Mais en revanche, il faut savoir qu'il y a deux modes d'installation. Le premier, si vous faites une hémorragie massive. Votre hémoglobine va chuter rapidement et là, vous allez le sentir. Vous allez très rapidement être essoufflé, faire des malaises. En revanche, l'anémie qui arrive de façon chronique. Typiquement, la femme qui va avoir des règles trop abondantes ne va pas s'en rendre compte puisqu'il y a des mécanismes compensatoires qui vont faire que vous allez faire avec. En revanche, au bout d'un moment, lorsque votre hémoglobine descend trop bas, eh bien, comme il n'y a pas assez d'oxygène qui va aller vers les organes, vous allez être fatigué, vous allez faire des malaises, avoir des vertiges, être pâle. Et puis, il peut y avoir les conséquences liées à la carence en fer qui peut donner des ongles cassants, des cheveux abîmés qui nous orientent vers une cause particulière.
Et alors, pour être fixé, on fait quoi? Une prise de sang?
Exactement. En règle générale, le médecin s'en rend compte, puisqu'il regarde au niveau de vos yeux si vous êtes tout pâle. Au moindre doute, on fait une prise de sang. Ça nous permet de savoir votre taux d'hémoglobine. Et puis aussi, pourquoi est-ce que vous faites de l'anémie? Parce que c'est bien beau de le savoir, mais il faut connaître la cause.
Et quels sont les traitements? Ça se soigne?
C'est le traitement de la cause. La cause la plus fréquente, c'est la carence en fer. Souvent, comme je l'ai dit, chez les femmes qui ont leurs règles trop abondantes. Et souvent, elles sous-estiment l'abondance de leurs règles. Et donc, parfois, elles oublient que finalement, elles manquent de fer. Ça peut être lié à un saignement au niveau de l'estomac. Vous avez un petit ulcère qui saigne à bas bruit. Certains cancers du côlon ou des maladies inflammatoires qui vont faire que vous allez consommer beaucoup plus de fer, qui va donc vous donner une carence. Mais vous avez d'autres vitamines, la vitamine B12 ou les folates, qui peuvent vous donner de l'anémie. Et puis enfin, on ne le sait pas trop, lorsque votre rein est malade, lorsque vous avez de l'insuffisance rénale, vous avez une hormone qu'on appelle l'EPO, que les cyclistes prenaient à une époque, qui permet justement de synthétiser de l'hémoglobine. Et donc, un rein malade, c'est aussi un manque d'hémoglobine.
Donc, la viande rouge, c'est une chose à consommer hein, si on est concerné par l'anémie.
D'une façon générale, le régime végétarien ne pose pas de problème et vous n'aurez pas de carence en fer et vous n'aurez pas d'anémie si vous faites attention. Ce qu'il faut savoir, en revanche, c'est que le fer qui est d'origine animale, il est mieux assimilé que le fer d'origine végétale. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger de la viande, même si vous avez du fer dans le chocolat, dans les légumineuses et que vous n'êtes pas obligé de manger
les lentilles.
Exactement, les lentilles. Donc, diversifiez votre alimentation et le meilleur traitement, c'est le traitement de la cause. Et ça, c'est votre médecin qui pourra vous orienter.
Merci Jimmy pour toutes ces précisions.
Europe 1, Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes ensemble depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et dans cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va parler d'androgynie et savoir si on a plus de difficultés à trouver l'âme sœur lorsqu'on est androgyne. Alors d'abord, un petit rappel, c'est quoi l'androgynie?
Alors l'androgynie, c'est ne pas avoir dans son corps dans ses traits ou dans sa gestuelle un caractère non spécifié d'une appartenance sexuelle, qui laisse le doute quant à son appartenance sexuelle. Ça ne veut pas du tout dire qu'on n'a pas le caractère majeur et majoritaire, comme tout un chacun, d'être femme ou d'être homme, mais en tout cas, dans le regard posé sur soi, il y a un doute qui persiste et la possibilité de jouer sur deux tableaux dans la façon de se proposer, se présenter à l'autre et d'être en relation avec les autres.
Et ça, c'est quelque chose qui a toujours existé.
Oui, bien sûr.
On peut penser à David Bowie, Mick Jagger, dans les années 70, à la fois homme et femme, physiquement.
Voilà, et qui était cultivé, d'ailleurs, cultivé parce que, justement, c'était pris comme aussi une façon de ne pas être stigmatisé et de jouer avec la possibilité d'autres possibles dans l'imaginaire de l'autre ou dans son imaginaire personnel, jusque dans sa sexualité, le cas échéant. Mais voilà, ce n'est qu'un caractère de comportement parce que des traits ne laissent pas discerner le masculin du féminin.
Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément homosexuel, parce que souvent on a l'impression que comme on joue sur les deux tableaux, on a forcément on est forcément homosexuel alors que c'est pas vraiment le cas.
Pas du tout, on peut tout à fait être androgyne, avoir un physique androgyne et avoir tout à fait un désir très affirmé pour le sexe opposé au sien. Tout en jouant, mais comme on pourrait l'avoir, par exemple, vous avez un homme très identifié masculin, une femme très identifiée féminine, pour autant, une femme peut se jouer d'attitude masculine, camionneur, pour prendre une caricature, ou un homme avoir tout d'un coup joué avec des choses un peu plus féminin, bien que son corps, à aucun moment, ne laisse sa pensée autre chose que sa virilité. Donc voilà, c'est vraiment, c'est simplement l'opportunité qu'offrent des traits, de jouer un peu plus fortement sur les deux tableaux, en quelque sorte.
Et est-ce que du coup, c'est plus compliqué de trouver l'amour ? Est-ce qu'on va attirer les personnes qu'on pense attirer, du coup ?
En fait, ça ne change rien du tout, puisque en réalité, se dire que c'est plus compliqué voudrait, finalement, ce serait répondre à une idée reçue, ou cautionner une idée reçue, qui est que je suis un homme très identifié homme, donc je suis en manque du féminin, et que donc je vais trouver du féminin très identifié féminin pour me compléter. Et si je suis androgyne, il n'y a rien qui me complète. Alors qu'en réalité, c'est bien au-delà d'une caractéristique visuelle, cette idée de faire couple avec l'autre et de chercher une complétude, c'est bien au-delà, d'abord parce qu'un homme reste un homme et une femme reste une femme, donc potentiellement ils peuvent se chercher pour se compléter de ce point de vue-là, mais imaginons, même s'ils étaient homosexuels, deux hommes homosexuels ou deux femmes homosexuelles cherchent une complétude dans un corps qui est pourtant identique au sien. Donc ça n'a strictement rien à voir. Chercher simplement l'âme sœur, c'est chercher quelqu'un qui ne me fait... Enfin, c'est trouver quelqu'un avec qui je me sente bien et qui ne me fait pas le reproche de qui je suis, qui je montre.
Et cette âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un qui est aussi androgyne. Une personne androgyne n'a pas de vocation à faire sa vie ou même quelques mois avec une autre personne androgyne. Ça peut être avec une personne d'ailleurs hétérosexuelle, ou enfin du même sexe ou d'un autre sexe.
Absolument. Comme vous avez des couples hétérosexuels, par exemple, où vous sentez qu'ils se sont reconnus au féminin et au masculin, ils sont très similaires, et d'autres, au contraire, sont très ouvertement complémentaires, dans le sens où ils sont très opposés. Donc c'est vraiment tout aussi vrai. On peut chercher quelqu'un qu'on va aimer parce qu'il nous ressemble, ce qui pose d'ailleurs la question de est-ce que j'aime l'autre ou est-ce que je m'aime moi dans l'autre. Hein, ça, c'est toujours une question que l'on peut se poser. Mais d'autres qui, effectivement, vont jouer avec cette... Ils ne sont pas tout, ils ne sont pas... C'est pas parce qu'on est androgyne qu'on est homme et femme et qu'on n'a plus besoin de l'autre. On a toujours le besoin de l'autre, la construction avec l'autre et ce que l'autre peut nous apporter reste d'une grande richesse, bien évidemment.
Et dans la vie, ça se passe aussi simplement ou est-ce qu'une femme aura plus de mal à aller draguer un homme un peu féminin ou inversement, un homme qui aurait du mal à aller draguer une femme masculine ?
Non, je crois qu'il y a des femmes qui ne seront jamais attirées par un homme androgyne parce qu'elles vont chercher une caractéristique très trempée de virilité affirmée parce que plus sécurisante ou plus complémentaire de façon évidente, alors que d'autres, au contraire, vont aimer retrouver cette douceur imaginée, en tout cas à travers des traits, ou quelque chose de plus similaire, de plus en adéquation avec ses propres valeurs ou ses propres comportements.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. J'en profite pour vous signaler la sortie cette semaine au cinéma du film Miss. C'est un film européen avec notamment Pascal Arbillot, Isabelle Nanty et Thibaut de Montalembert. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Bonjour Anne.
De l'or, c'est de l'or qu'il nous faut.
Oui, avec Toutankhamon. Alors, sa dernière demeure était tapissée d'or. Les 49ers, vous savez, ces chercheurs d'or, les orpailleurs de la conquête de l'Ouest américain.
Exactement. Et parmi les chercheurs d'or contemporains, comme j'en ai pas trouvé, j'ai trouvé quelqu'un dont le nom évoquait l'or, c'est Julien Doré, l'idole absolue de Stéphane Bern. Nous verrons qu'il s'appelle Doré, mais il est anti-bling-bling.
Merci à tous les deux. Très bonne émission et bel après-midi sur Europe 1.